Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis, jour premier.
Ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ainsi s'ouvre l'éducation sentimentale de Flaubert, avec la rencontre de Frédéric et Madame Arnoux. Le jeune homme l'observe d'abord de loin, ébloui, amoureux déjà, quand soudain, leurs yeux se rencontrèrent. Le roman aurait pu s'en tenir là, déplier cet instant magique de la rencontre amoureuse. Mais le mari, Monsieur Arnoux, apparaît soudain. « Ma femme, es-tu prête ?» Et là, chacun se dit que ce qui semblait l'évidence ne sera finalement pas si évident que cela. En 2019, une enquête sociologique révèle qu'en France, un homme sur deux et une femme sur trois ont déjà trompé leur partenaire. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine La maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui. Ici, pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Dans cet épisode, une histoire de secrets au pluriel et d'amour clandestin.
C'était comme dans les films, on était seul au monde, on n'avait pas à se cacher, on pouvait s'aimer librement et se le dire. C'était le bonheur absolu. Et donc on repart en Bourgogne pour le Nouvel An tous les deux, sauf que là, tout d'un coup, je le sens tourner. C'est comme un ascenseur qui chute du 20e étage en 3 secondes et demie. C'est un cauchemar. Mon premier amour, je l'ai connu sur les bancs du lycée. J'avais à peine 17 ans et on est sortis ensemble. Et ça a duré comme ça pendant 10-12 ans jusqu'à ce qu'on se marie. J'avais 28 ans et j'étais heureuse de me marier parce que c'était l'aboutissement de quelque chose. Et puis je faisais aussi comme mes copines, j'avais envie d'un beau mariage, d'une jolie robe, j'avais envie d'être comme une princesse, enfin, comme un rêve de petite fille. Et donc, j'ai choisi une robe de mariée rose poudre. Et sur cette robe de mariée, il y avait aussi un voile qui était brodé avec une chanson qui était la nôtre, une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle « Avec ». Et donc, ce mariage se passe. D'ailleurs, on est assez chacun de notre côté à ce mariage. Et voilà, et on rentre. Et moi, j'étais avocat à ce moment-là. Et je travaillais dans un cabinet dans lequel j'étais avec Marc, qui était l'associé de mon patron. Et Marc était présent à ce mariage à Rome. Et c'est vrai qu'on devient de plus en plus proches, on s'entend très bien, on va souvent déjeuner ensemble la semaine pendant qu'on bosse. Et on se voit de plus en plus souvent. jusqu'à ce que la situation devienne quand même légèrement ambiguë. On est chacun dans une relation de couple qui est satisfaisante, mais je dirais qu'il n'est que satisfaisante, et donc on se confie sur souvent ce qui ne va pas, et on a beaucoup de, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs. En fait, c'est ça qui nous lie et qui nous rapproche. On a une vraie confiance l'un dans l'autre. Et jusqu'à ce jour de son anniversaire, je l'invite à déjeuner dans ce super resto, sans le dire à personne. Et ça, c'est un an, pile un an après le mariage, après mon mariage. Et après le restaurant, je sens qu'il a une attitude bizarre et je me demande s'il va pas essayer de m'embrasser. Et là, je suis assez mal à l'aise parce que, bon, c'est vrai que je me rends compte que la situation entre nous est ambiguë, mais de là à ce qu'il se passe quelque chose, j'y suis pas du tout dans ma tête. Donc, je fais en sorte qu'il se passe rien, mais ça commence à germer dans mon esprit. Et donc je me pose des questions, je me demande ce que je veux, je me demande si finalement je suis amoureuse de mon mari et si je suis bien dans cette relation, et je commence un peu à tout remettre en cause. Et quelques jours après, Marc me propose d'aller faire l'école buissonnière. Il faisait très chaud puisqu'on était en plein mois de juillet, et j'accepte. Et on va à la piscine, et puis là, vraiment, ça commence à devenir un peu, beaucoup plus clair. Et je lui dis, mais tu sais, je laisse tomber, je tromperai jamais mon mari. C'était pour moi impossible, on était ensemble depuis très longtemps. Et donc, je me rendais bien compte que j'avais un truc pour Marc, mais pour moi, ça ne pouvait pas aller jusqu'au stade de l'exécution.
Ce que j'entends chez Noémie,
Marie-Carmen Garcia,
c'est la rencontre relativement précoce avec l'homme qui va devenir son conjoint.
Sociologue.
Si j'entends bien, c'est son premier amour, donc j'imagine que c'est son premier et unique, puisqu'elle ne l'a pas trompé jusqu'au moment où, là où on en est de l'histoire. Et moi, je vous dis objectivement, statistiquement, un partenaire unique aujourd'hui, affectif peut-être, mais en tout cas sexuel, c'est extrêmement rare en France. Enfin, en tout cas, dans les déclarations des individus. Donc, moi, je dirais, de loin, évidemment, avec le recul, elle avait toutes les cartes posées dans la société dans laquelle on est pour qu'elle ait un autre partenaire. Les choses allaient de soi jusqu'au moment où elle développe, en fait, une autre intimité avec son collègue. Ça, c'est ce que, ils commencent à travailler ensemble, à déjeuner ensemble. Et je dirais, si je peux me permettre, le point crucial de l'histoire, c'est le moment où ils commencent à parler des conjoints, raconter leurs problèmes de couple. Et ça, le levier, il est là, quelque part. C'est pas tant les déjeuners ensemble. Bon, bien sûr que ça va créer de l'intimité, mais la véritable intimité, elle va arriver à partir du moment où on parle de son autre intimité. Et ça, c'est un grand classique. C'est-à-dire que les amants et les maîtresses parlent de leur relation officielle. Pas toujours en bien, c'est ce qu'on entend ici quand elle dit elles étaient satisfaisantes, mais que satisfaisantes, en parlant des relations officielles. Et là, ça va créer, elle dit, on partageait beaucoup de choses ensemble. Ils font le même métier déjà, donc probablement ils ont plein de goûts et de choses en commun, mais ils ont une chose en commun, c'est que l'un et l'autre vont se conforter dans l'idée que leur mariage, leur union n'est pas satisfaisante.
À ce moment-là, j'avais tout le temps envie d'être avec lui. Et le temps que je passais avec lui était génial. Je me sentais hyper bien, il me faisait rire, il m'épanouissait, je me sentais moi-même, je me sentais très libre de dire tout ce que je pensais, je me sentais très comprise aussi. Je me sentais vraiment dans mon élément et j'avais le sentiment d'avoir un interlocuteur qui était un peu mon alter ego. Donc j'arrivais de plus en plus tôt au bureau, je partais de plus en plus tard, on allait déjeuner tous les deux, on se faisait des super tables sans le dire à personne en prétextant qu'on avait des audiences chacun de notre côté. Et donc le mensonge s'installer dans cette relation qui n'était pas claire. Au départ, on ne se disait pas. Après, quand j'ai compris que ses intentions à lui étaient claires, je lui ai montré que les miennes ne l'étaient pas et que je n'étais pas du tout sûre de vouloir foutre en l'air ma relation. Et puis, on allait partir en vacances, chacun de notre côté, au mois d'août. Et puis, on sentait cette séparation approcher. Elle nous faisait peur parce qu'on allait être séparés alors qu'on avait un vrai quotidien, qu'on se racontait tout. Et donc, on redoutait ça. Et à la veille de cette séparation du mois d'août, je me souviens pas tellement comment ça s'est passé, mais je sais qu'on était au cabinet à ce moment-là. On était dans mon bureau, il n'y avait personne. Et Marc m'a embrassée. Et bon, les papillons commençaient à doucement se manifester. Et puis, l'été allait arriver. Donc, on se dit au revoir. Et c'était vraiment une souffrance, pour le coup, de se séparer. Et c'est vrai que le manque a fait que j'ai su que j'étais très, très amoureuse de lui et que je savais pas comment j'allais me sortir de cette histoire. Et d'autant que mon mari de l'époque, Gabriel, travaillait aussi dans la boîte familiale. Il travaillait avec mon père et mon frère. Donc c'était d'autant plus... Tout était imbriqué. Et je savais pas. Et puis j'avais pas envie de lui faire de la peine. Puis je voyais pas comment je pouvais lui annoncer ça. Mais ce secret... Il n'a pas encore de conséquences, parce que je vis le moment présent, en fait. Je suis hyper heureuse de ressentir tout ce que je ressens. Ça m'émoustille. Quand je me lève pour aller découvrir ses messages, pour lui parler, pour échanger avec lui, je me délectais au moment où j'allais m'enfermer dans la salle de bain pour lire ses mails, des très longs mails, et lui répondre. Donc j'étais pas non plus très fière, hein, même si ça me rendait heureuse. Et donc Gabriel s'en rend pas du tout compte, pas du tout compte. Je crois que d'abord quand on veut pas voir quelque chose, on le voit pas. Je considérais que en réalité la trahison, c'est bien sûr que c'est l'acte. On n'en avait pas encore eu de relation intime et tout, mais on était tellement devenu un nouveau couple et il y avait tellement d'amour que pour moi, c'était bien plus une trahison que quand tu as une aventure qui veut rien dire. Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a tout ça. Donc pour moi, c'était une vraie trahison. J'en aimais un autre sous son nez, je disais rien. Et évidemment, ça, je me doutais que ça allait pas s'arrêter comme ça. Mais je voulais pas encore voir ce qu'il allait advenir de cette relation. Et j'étais vraiment, quand on dit le cul entre deux chaises, c'était le cas, puisque je savais pas comment me sortir. C'était pour moi une situation inextricable. J'étais raide dingue de Marc et j'étais en train de construire ma vie avec un autre dont manifestement je n'étais plus amoureuse. Et puis j'en avais parlé à personne, donc j'étais seule avec mon secret.
Il y a un élément que je retrouve de manière récurrente dans tous les récits, c'est la révélation de soi. À un moment, elle dit « je pouvais être moi-même ». Et ça, c'est systématique, le sentiment de révélation, d'une identité authentique, d'être vraiment soi-même dans cette relation cachée. Et ce sentiment d'authenticité, il est ni vrai ni faux. Enfin, c'est pas à nous de l'extérieur de dire, ah bah, elle se trompe. En réalité, elle a une authenticité aussi dans son couple, mais qu'elle mesure plus. Mais il y a ce sentiment-là. Le sentiment d'être réellement soi-même avec l'amant ou l'amante est systématique. C'est un élément du discours, un élément de l'impression et ce qui va mener les gens à donner aussi beaucoup d'importance à cette relation-là, parce que dans cette relation, ils éprouvent, et c'est réel. C'est pas une vue de l'esprit, le sentiment d'être eux-mêmes, d'une certaine authenticité. Alors, une des explications, c'est qu'on est hors des rôles sociaux. Il n'y a pas de tiers aussi dans la relation extra-conjugale. Il n'y a pas les copains, les copines, le papa, la maman, je ne sais qui. Donc, on a un sentiment très, très puissant, ce qui va donner une partie de sa grande force à cette relation, mais qui va aussi la rendre fragile. Il n'y a pas toute la structure sociale, il n'y a pas les engagements officiels ou envers les autres, hein, tout simplement. Eh bien, ça, elles vont souvent pas tenir confrontées à ça. Et il y a le secret. L'adultère est totalement lié au secret. Enfin, l'infidélité, en tout cas celle que j'ai étudiée, sinon c'est pas l'infidélité, c'est autre chose, mais elle est totalement liée au secret, tellement bien conservé que personne ne va le savoir. La question du secret, ce qu'elle appelle le mensonge, alors c'est le mensonge par omission, hein, quand elle dit, c'est intéressant quand elle dit, j'étais dans la salle de bain en train de lire les mails, mais c'est une image qu'on m'a répété beaucoup de fois, la salle de bain et les toilettes. En fait, c'est les endroits où les gens peuvent s'enfermer et où les échanger SMS ou des mails, ou parce que c'est dans un espace commun, les endroits où on peut fermer à clé, bah, c'est ces endroits-là.
En septembre, les choses s'accélèrent. Le déclencheur, ça a été qu'il y avait Yann, l'associé de Marc, qui était mon patron. Yann a un accident de scooter assez grave. Et je reçois un texto de Marc pour me prévenir. Et donc là, c'était un peu branle-bas de combat. C'était assez inquiétant. Il me demandait de le retrouver tôt le lendemain matin pour organiser le cabinet, apporter des affaires à Yann à l'hôpital. Et il prend tout en main. Et je le vois prendre tout en main, organiser, lui apporter ses affaires, annuler les audiences, reporter les rendez-vous. Et je suis assez admirative de la façon dont il gère tout. Et c'est à ce moment-là qu'on a, quand Yann est à l'hôpital, mais qui va mieux hein, quand même, qu'on a nos premières relations sexuelles au cabinet, alors qu'on est tous les deux au cabinet et qu'Yann n'est pas là. Voilà, tout ça nous a encore plus rapprochés et c'est là que vraiment notre histoire a pris une autre tournure. On venait pourtant de milieux très différents, on avait reçu des éducations très différentes. Marc, il vient de Clermont-Ferrand, il a grandi à Clermont jusqu'à sa licence de droit. Et moi, j'ai eu une vie très parisienne, dans une famille dans laquelle j'étais très choyée, une famille juive très protectrice. Et c'est vrai qu'on n'avait rien au départ pour s'attirer, je pense que personne n'aurait mis une pièce ou n'aurait parié sur notre relation. Mais le fait est que probablement aussi, de par nos expériences, notre longue expérience amoureuse à chacun, on se rendait bien compte que c'était là où on était tous les deux, que c'était bien et pas dans nos foyers respectifs.
Il y a une histoire de l'amour, hein, une histoire des émotions. Donc, tel qu'on le connaît, nous, aujourd'hui, l'état amoureux, bon, je vais être un peu cruelle comme sociologue. Hein. Après, ça n'empêche pas du tout que chacun vit les choses réellement. Mais c'est une construction sociale qui est liée aussi à la façon dont la famille s'est instituée, le couple s'est institué. Et avec une montée en puissance de l'amour conjugal est assez récent, en réalité. C'est après, sur le XXe siècle, vraiment, ça devient une norme dominante. Parce que, oui, les aristocrates, les bourgeois se mariaient par ce qu'on appelle intérêt. Voilà, c'était des familles qui mariaient leurs enfants pour des raisons de succession, des raisons de patrimoine. Les gens du peuple, les ouvriers, ils se mariaient pas beaucoup. Pendant la période 19e industrielle, en fait, il y avait du concubinage, mais il n'y avait pas forcément le mariage, c'est même plutôt assez rare. Le sentiment amoureux a souvent été considéré comme quelque chose dont il fallait se méfier, parce que pas durable, parce que évanescent, parce que insaisissable. Donc, on n'allait pas construire une famille sur quelque chose d'aussi fragile. Aujourd'hui, c'est devenu une valeur extrêmement importante dans notre société. Elle dit on vient de deux milieux très différents, mais moi, surtout, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître très classiquement les professions des parents, etc., pour voir s'il y a ce qu'on appelle homogamie ou non. Parce que ce qu'on appelle l'homogamie en sociologie, c'est le fait que les individus ont plutôt tendance, inconsciemment bien sûr, à faire des unions durables avec des individus de mêmes origines sociales ou de même statut social, selon les âges. Et l'homogamie est plutôt forte, en général. Et ça, alors, dans les relations extra-conjugales, aussi longtemps qu'elles restent extra-conjugales, on peut éventuellement trouver des différences, mais pas tant que ça. En fait, alors peut-être le coup de foudre, le coup d'un soir, ou l'amour d'été, ou je ne sais quoi, peut-être que là, ça existe, mais en réalité, dans les relations qui durent, moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, c'est une forte homogamie. Et en fait, dans les dyades, moi, j'appelle ça les dyades, bon, on peut dire les couples extra-conjugaux, mais comme c'est pas des couples, à proprement parler, ces dyades-là, les gens ont les mêmes écarts d'âge qu'on retrouve dans les couples officiels. C'est à environ 2 ans. Bon, après, il y a pour certains un peu plus d'écart. Toujours un peu plus l'homme plus âgé, la femme plus jeune, et des niveaux d'études assez similaires, des contextes assez similaires. Donc, l'idée de l'homme, elle existe, mais moi, je ne l'ai jamais vue, de l'homme qui entretient la maîtresse, l'homme très âgé qui entretient une maîtresse pas fortunée. Ben non, ça existait dans la société dite traditionnelle, ça existe dans d'autres sociétés parce que c'est institué. Mais ce genre, en fait, on va trouver des choses plutôt homogènes, en fait, à ce niveau-là. Et c'est quand même, elle, ce qu'elle exprime, c'est que assez rapidement après le premier baiser, elle se dit « j'aime cet homme-là ». Je n'aime plus mon mari et ça va vite entre guillemets, mais elle se pose des questions, mais elle se pose surtout des questions de pourquoi je reste avec mon mari et pas pourquoi je suis avec cet amant-là. Quelque part, j'irais, ça devait arriver.
Je me rendais bien compte que ce que je faisais était pas très joli, même si je pouvais pas m'en empêcher. Je veux dire, c'était plus fort que moi. Ça me prenait au bide, ça me transcendait, cette relation me transcendait. Je dis à Gabriel, écoute, je ça va pas, je remets tout en question, je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de nous. J'étais très embêtée de lui faire de la peine, mais pour autant, c'est que ça n'allait pas, et donc c'était plus possible, et donc on divorce civilement. Donc j'avais pas de culpabilité, ça a été difficile sur le moment de le quitter et de lui imposer ça, mais j'ai pas eu de culpabilité et je supportais de moins en moins le conflit. Et à l'inverse, avec Marc, c'était très très consensuel. Alors certes, c'était le début d'une histoire, mais il se remettait beaucoup en question. En fait, je découvrais ce qu'était une autre relation et une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus altruiste, beaucoup plus à l'écoute de l'autre. Bon, c'était devenu, il était devenu indispensable à ma vie, vraiment indispensable. Et on va passer le week-end de Noël tous les deux à l'extérieur de Paris. Je me souviens que j'ai jamais été dans cet état-là. Je me réveillais la nuit. C'était un conte de fées. Voilà, c'était comme dans les films. On était seul au monde, on n'avait pas à se cacher, on pouvait s'aimer librement et se le dire. C'était le bonheur absolu. Et on rentre, et donc on repart en Bourgogne pour le Nouvel An tous les deux. Sauf que là, tout d'un coup, je le sens tourner. Il tourne en plein milieu du week-end. Il est plus pareil, je le trouve chelou. Je sens qu'il y a un truc qui le tracasse et il ne veut pas m'en parler. Et je finis par comprendre, à force de lui tirer les vers du nez, qu'il est complètement envahi par la culpabilité. Il reçoit des messages, probablement, de sa compagne. Et là, c'est comme un ascenseur qui chute du 20e étage en 3 secondes et demie. Bam, c'est vraiment le soufflet qui retombe. C'est un cauchemar. Je passe du conte de fées au cauchemar en l'espace d'une semaine, quoi, finalement. Et donc on rentre à Paris et je comprends que ça va pas du tout. On avait pris une espèce de garçonnière dans laquelle on devait s'installer tous les deux, évidemment en cachette de tout le monde. Très rapidement, il va prendre ses affaires et revenir chez lui parce qu'il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à gérer cette séparation. Et là, je me dis, c'est la déception de ma vie. J'ai quitté mon ex-mari pour quelqu'un que je pensais exceptionnel et qui tout d'un coup se comporte comme le type le plus lâche du monde. Et je lui dis que je le trouve lâche, pas courageux, parce que je me rends bien compte c'est pas contre moi, et je vois bien qu'il est plein d'amour pour moi, et qu'il est déchiré entre sa culpabilité et son amour. Et je lui en fais le reproche, et ça donne lieu à des crises de nerfs. Je deviens hystérique, je suis aussi malheureuse que j'étais heureuse 10 minutes avant. Et là, il a une phrase que je trouve absolument ridicule. Il me dit « Mais tu sais, je ne suis pas lâche comme tu me dis. Moi, je serais courageux en temps de guerre. » Je me dis « Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Ça ne veut rien dire, ce que tu dis. » C'était une autoroute de bonheur. Et tout d'un coup, ça devient un embouteillage de merde, quoi. Et j'arrive pas à gérer ça. Mais pour autant, j'arrive pas à me détacher de lui et à mettre un terme à cette relation. À chaque fois, les souvenirs me reviennent, sa lâcheté me revient, et je me dis, mais non, il s'est trop mal comporté. C'est pas possible, je peux pas être avec ce mec-là. Il a pas été à la hauteur. Et tout ça dure des mois et des mois. Des mois au cours desquels je suis suffisamment dingue pour me dire « Maintenant, j'ai tout compris à la vie, je vais aller récupérer Gabriel parce qu'en fait, avec lui, c'était bien. » Donc, j'essaye d'aller récupérer Gabriel. Je me fais tatouer son nom sur ma cheville. Je vais le voir en lui montrant mon tatouage pour essayer de le récupérer. Ça ne fonctionne pas. Heureusement, il a l'intelligence de ne pas me reprendre. Et puis, ça devient tellement insupportable avec Marc au cabinet que je finis par quitter le cabinet pour m'installer seule, parce qu'être dans les mêmes locaux, c'était invivable. Et donc là, on va plus se voir pendant plusieurs mois.
Thank you.
à divorcer pour, au final, se dire, ben, finalement, j'ai lâché, entre guillemets, pour rien. Bon. Cette question du courage et de la lâcheté, moi, elle m'a beaucoup travaillé parce que je l'ai entendu plein de fois, de nombreuses fois, dans de nombreuses situations. Et au final, j'ai fini par me rendre compte que, en fait, la conception du courage n'est pas la même chez ces hommes et chez ces femmes. On reste quand même sur des sociétés de type patriarcal dans nos sociétés, c'est-à-dire où l'homme reste quand même le chef de famille, en tout cas symboliquement, même si les femmes travaillent, etc. Et le capitaine ne quitte pas le navire. Je reste, c'est une preuve de courage, c'est-à-dire des hommes vont me dire mais c'est la merde chez moi, c'est vraiment l'horreur pour X raisons, etc. Mais je reste parce que je me suis engagée. Mais moi ça va très mal avec ma femme, mais je reste. Quand même. Et je me suis engagée et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Voilà. Alors que de l'autre côté, les femmes vont dire, mais c'est vraiment de la lâcheté parce que tu n'aimes plus ton épouse. Alors c'est ce qu'ils disent, hein, après. Tu n'aimes plus ton épouse, tu veux pas t'installer avec la femme que t'aimes, tu es vraiment un lâche. Et en fait, c'est deux conceptions du courage et de la lâcheté qui sont antinomiques. C'est-à-dire d'un côté, ben, le courage, ça va être d'aller vers l'amour. C'est ce que conçoivent les femmes. De l'autre côté, le courage, ça va être de rester envers et contre tout dans sa famille. Donc, l'idée de rester maître à bord et de retourner, enfin, rester dans son foyer envers et contre tout, elle est pas nouvelle. Historiquement, c'est plutôt ça, le modèle dominant chez les hommes. Et deux, bah, quand il dit, moi, en cas de guerre, vous le dites, c'est ridicule, je serai courageux, peut-être, qui veut dire, mais au contraire, moi, je suis très courageux de rester dans une situation compliquée.
J'ai d'autres petits copains, je comprends que je ne vais pas récupérer mon ex-mari et peut-être c'est probablement mieux pour moi. Et arrive le mois de juillet 2014 où j'envoie un message à Marc pour lui souhaiter son anniversaire, après des mois de silence sans avoir de ses nouvelles. Donc je lui laisse un message pour son anniversaire et il ne me rappelle pas, ce qui était vraiment pas du tout dans ses habitudes. Mais là, pas de nouvelles. Et Marc me rappelle et il me dit « Écoute, à chaque fois, on se remet ensemble et puis tu me largues, j'arrive enfin à t'oublier, j'ai une copine, qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu reviens, j'arrive maintenant à sortir la tête sous l'eau, j'ai passé un bon week-end d'anniversaire, j'ai pas besoin que tu viennes m'emmerder, pourquoi tu m'appelles ?» Je lui dis « Écoute, je suis vraiment désolée, je voulais juste te souhaiter ton anniversaire. » Il me dit « Bon, bah, maintenant qu'on se parle, allons prendre un café. » On s'assoit et là, je le trouve vraiment changé. Et là, il me dit très calmement et avec beaucoup de distance qu'il sait que je suis la femme de sa vie, mais qu'on ne sera jamais ensemble, qu'il en a pris son parti et qu'il sera sans doute heureux avec une autre, pas comme il aurait été avec moi, mais que c'est comme ça, c'est que parfois la vie décide autrement, mais que ça va et qu'il a envie d'être bien. Et là, je me dis, mais personne ne m'aimera jamais autant que ce mec-là. Et donc, on était au mois de juillet, il partait en vacances de son côté, je partais du mien. Et pendant toutes les vacances, je ne pensais qu'à lui. J'étais obsédée par lui. On ne se donne pas du tout de nouvelles, pour autant. Et à la rentrée, je fais tout pour le croiser. Donc, au palais de justice, dans les cafés à côté du cabinet, je zone en bas du cabinet. Et là, ça devient obsessionnel. Je le cherche partout jusqu'à ce qu'évidemment, je finisse par tomber sur lui en bas du cabinet, soi-disant par hasard. Et on va prendre un café. Je lui montre que je viens de faire transformer mon tatouage. On décide de se revoir le soir, mais alors pour le coup, sans engagement, puisqu'à chaque fois qu'on décidait de se remettre ensemble, ça ne fonctionnait pas. Et c'est comme ça, en septembre 2014, qu'on s'est, sans se mettre aucune pression, qu'on ne s'est plus jamais quitté. Donc, je suis tombée enceinte au mois d'avril 2015. On avait tellement galéré dans notre histoire d'amour que, on en profitait. On était libérés de tous nos démons, de tout, et on était juste, on avait juste envie de vivre l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et de construire ensemble. Et puis ensuite, très rapidement, on a fait notre fils qui est né en janvier 2018. Et c'était génial. Il y avait aussi une chose qui était très importante et qui aussi est venue de nos débuts, c'était la confiance. On avait une confiance énorme, réciproque, parce que tout ça avait commencé par une tromperie chacun de notre côté. Et du coup, on savait que nous, on ne se mentirait pas.
Le rebondissement de se mettre en couple et avoir un enfant, je dois dire que c'est assez, voilà, c'est assez singulier hein, dans ce que j'ai vu. C'est très rare, hein, ce type de... En tout cas, les personnes que j'ai interviewées, mais surtout après autant enfin, des mois, des années, autant de rebondissements, je pense que c'est rare et c'est même, même étonnant, je dirais, qui ait deux enfants. Parce que je dis, et même ce qu'elle dit à un moment donné, elle dit, bah non, c'est vrai qu'on se mentirait jamais. Moi, ce que j'ai plutôt entendu chez des interviewés, c'est de dire, bah, puisqu'une fois, c'est arrivé une fois, on n'aura plus jamais confiance. C'était plutôt l'inverse. Donc là, moi, je vois une situation où ils ont construit autre chose. Alors comment? Bah voilà, c'est leur histoire singulière, hein, que ce que je vois habituellement. Parce qu'habituellement, c'est plutôt une défiance après dans le couple officiel quand il a lieu. Et en général, ça tient pas beaucoup. Mais dans ce que j'ai vu, moi. Il me semble que c'est exceptionnel, oui.
Il s'occupait beaucoup des enfants. On faisait beaucoup de choses tous les quatre. Et donc, tout ça a été extraordinaire jusqu'à ce qu'il tombe malade en début 2020. Tout début 2020, il a une douleur très vive au poignet qui est en fait une septicémie. Il manque d'y passer. Et puis, il va se remettre de cette septicémie un peu miraculeusement, en tout cas, il s'en sort, mais c'était pas gagné. Et puis là, le confinement arrive, et il se sent pas très bien. On met tout sur le dos de la septicémie. Et il va finir par aller faire des examens. Il avait perdu beaucoup de poids. Et là, le diagnostic tombe et on se rend compte qu'il a un cancer qui est très, très avancé, puisque c'est un cancer qui est déjà métastatique. Ça nous tombe dessus comme... Et donc, on va consulter un oncologue. Et Marc me demande de ne pas poser de questions. Et je me retrouve seule dans le bureau de l'oncologue. Et je comprends que son cancer est tellement avancé qu'il ne peut pas guérir. Et que les traitements n'ont pour seule vocation que de prolonger la durée de sa vie. Et je demande à l'oncologue de ne rien lui dire, sauf si Marc lui pose la question. Il me promet. Et donc, je sais qu'il est condamné. Il y avait un double secret, d'abord. Il y avait ce secret que j'avais vis-à-vis de lui, de ne pas lui dire qu'il était condamné. Probablement qu'il le savait. Il le savait au fond de lui. Il n'avait juste pas envie qu'on lui dise. Il a écrit une lettre aux enfants, dans lesquelles il leur donne les clés du bonheur. Donc, il savait quand même qu'il était très, très mal barré. Est-ce qu'il savait que je savais? C'est pas sûr. Et j'avais aussi un autre secret, puisqu'il voulait que personne ne sache qu'il était malade. On pouvait le dire à personne parce qu'il voulait pas qu'on ait pitié de lui. Mais je crois que le secret m'a donné beaucoup de force. Sur le moment, c'était pas facile. Je me dédoublais. C'était très difficile. Mais avec du recul, ça m'a permis de pas m'écrouler complètement. Quand l'autre est malade, on est en pilote automatique, on n'a qu'une envie, c'est d'être là pour l'autre, d'assouvir le moindre de ses désirs et d'être comme un soldat qui s'exécute. C'est difficile de voir la personne qu'on aime souffrir le martyre et puis pas se plaindre en plus, il serrait les dents, quoi. Et compte tenu de notre relation, cette relation fusionnelle, on était toujours l'un pour l'autre, à se comprendre, et là... Non pas que je comprenais pas ces douleurs, mais je les ressentais pas et je pouvais pas les diminuer, je pouvais pas l'aider du tout. Et là, j'ai compris cette phrase qu'il me disait alors qu'il n'arrivait pas à quitter sa compagne, je serai courageux en temps de guerre. Il était d'un courage comme j'ai jamais vu. Il a dit à ma grand-mère qui avait 94 ans à l'époque, Mamilu, tu penses quand même pas que c'est toi qui vas m'enterrer? Peut-être qu'il avait des moments pour lui où il était seul, où il craquait, j'en sais rien. J'espère, mais parce que ça fait du bien parfois de craquer. Mais en tout cas, il montrait pas grand-chose. Et pendant tous ces moments-là, c'est de l'amour. L'amour, c'est être là l'un pour l'autre. Évidemment, ça se manifeste d'une autre manière, totalement différente, parce que de par ces douleurs, il y a très peu de relations intimes au-delà du sexe, et c'est ne serait-ce que me prendre dans ses bras au creux de son épaule au moment de s'endormir à cause de ses douleurs à l'estomac, tout ça était impossible. Donc c'est une autre forme d'amour, mais c'est extraordinaire aussi. Comme on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, un jour je lui ai dit, mais Il y a un moment où tu vas me demander ce que tu attends de moi, me dire précisément ce que tu veux que je fasse avec les enfants. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise que tu ne saches déjà ?» Et donc son état se dégrade, on a appris son cancer fin mai début juin 2020 et il va mourir le 19 janvier 2021. Il va mourir à la maison, comme il a voulu. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais en fonction de Marc, sans même me poser la question, parce que je sais, parce qu'il est toujours là dans ma tête, et que je sais ce qu'il aurait voulu, ce qu'il aurait aimé. Ou quand je fais quelque chose qui n'aurait pas été forcément sa décision, je le sais aussi. Mais je dirais qu'on a eu une très très belle histoire d'amour qui n'a pas commencé de manière simple, qui n'a pas fini, même si je considère qu'elle ne sera jamais finie, parce qu'il vit en moi. Mais donc une relation très tumultueuse, mais extraordinaire. C'était pas la vie est un long fleuve tranquille, mais en tout cas, on était riches de notre histoire d'amour. Voilà. Et moi, j'ai le sentiment d'aller bien parce que j'ai été nourrie par son amour. C'est parce qu'on a vécu tout ça ensemble. On a eu de la chance de vivre ça. On a eu la chance de connaître ça. Il n'y a pas beaucoup de couples qui peuvent se vanter d'avoir connu de tels moments, une telle intensité, de telles émotions. Alors évidemment, il a une place particulière que personne n'aura jamais. D'abord, c'est le père de mes enfants, et puis c'est cette histoire d'amour, encore une fois, extraordinaire que j'ai vécue. Mais pour autant, j'ai promis à Marc qu'on serait heureux, que je ferais tout pour qu'on soit heureux, et je savais que mon bonheur passerait aussi par une autre histoire d'amour, différente, et sans culpabilité. Et aujourd'hui, je suis retombée amoureuse. Je suis contente de pouvoir avoir des sentiments amoureux qui sont d'autres sentiments amoureux, mais qui me rendent heureuse et sans aucun sentiment de trahison ni de culpabilité. Au contraire, pour moi, je respecte ma promesse de tout faire pour aller bien et être heureuse.
Cet épisode de La maladie d'amour a été tourné et monté par Elodie Maillot. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargée de production, Margot Opinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.